Purple hat, cheetah print dance, dancing on the ceiling, on the people climb up on the booth, hanging from the people, on the people, my head hits the roof, dancing on the ceiling, on the people, I got people on the, dancing on the people, I got people. Bonjour, bienvenue sur Red Cross, je suis Camille, étudiante en troisième année d'assistante de service social, et je vais animer votre émission aujourd'hui. Au sommaire, la présentation des formations de l'Institut régional sanitaire et social dans le cadre des journées portes ouvertes. Alors aujourd'hui, donc, on accueille deux étudiants en école d'assistante de service social et ce sont deux garçons, ce qui est peu banal dans notre formation puisque nous sommes composés à 80% de filles. Et la formatrice, Agathe Lunel, qui est formatrice à l'IRFS.
Ouais, c'est à peu près ça.
Donc ouais, nous on représente bien la promotion, effectivement.
C'est ça.
Donc nous sommes trois futures assistantes de service social et une formatrice. Alors les garçons, est-ce que c'est possible que vous puissiez vous présenter et dire votre âge, votre nom, votre âge et votre niveau de formation?
Bien sûr. Alors moi, je suis Adèle Guillot. Du coup, je suis en troisième année d'assistante de service social et j'ai 21 ans.
Moi, je suis Antoine Pinatel. Je suis aussi en troisième année d'assistante de service social et j'ai 19 ans. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous dire... excusez-moi, je suis un peu perdue, donc faut que je me remette dans le...
Tu digères un peu.
Oui, il y a quelque chose comme ça. Adèle, est-ce que tu peux nous dire ton niveau de formation, comment tu as accédé, par quel parcours tu as accédé à la formation d'assistante de service social?
Oui, alors moi j'ai fait un bac S au lycée. Après, j'ai fait un service civique à la Croix-Rouge, où j'étais auprès des mineurs non accompagnés. Et à la fin de mon service civique, je me suis inscrit sur Parcoursup et j'ai intégré la formation d'assistant de service social.
Et toi, Antoine?
Moi, du coup, j'ai fait un bac ES au lycée. Et directement après, je me suis inscrit sur Parcoursup. Et voilà, après avoir entendu parler du métier d'assistant de service social au lycée, je me suis directement inscrit à la formation. J'ai été reçu et voilà, je suis là aujourd'hui.
Et toi, Adèle, comment tu as connu le métier d'assistant de service social?
Alors, c'est par ma mère qui était directrice d'une école élémentaire et en fait qui faisait très souvent appel aux services sociaux pour les élèves, plus au niveau du CCAS dans la commune où elle était. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai pu connaître le métier d'assistant de service social.
D'accord. Pourquoi cette formation, les garçons?
C'est vaste. Bah justement, parce que c'est vaste. Non, en vrai, moi, j'ai toujours voulu travailler dans les métiers de l'humain. Je me tâtais un moment à travailler en tant que psychologue, parce que c'était de la relation, c'était de l'humain, c'était des choses qui m'intéressaient. Et au final, on m'a présenté le métier d'assistant de service social, où on m'a dit que voilà, c'était exactement ça. C'était dans un métier de relation, où il fallait apprendre à parler aux personnes, à les accompagner, que ce soit à court, moyen ou long terme, en respectant aussi leurs envies, leurs besoins, leur temporalité, toutes ces choses-là. Et c'est toutes ces choses qui ont fait que ça m'a branché.
Ça t'a plu. Et toi, Adèle?
Et ben, un peu pareil. C'est en rencontrant du coup des assistantes sociales où j'ai pu me renseigner sur le métier, je me suis rendu compte que ça me correspondait bien. Et c'était un métier dans lequel je me représentais bien, c'est quelque chose qui me correspondait. Et du coup, je me suis renseigné sur le métier, j'ai effectué du coup des stages pendant que j'étais en service civique, et ça m'a permis de confirmer vraiment que c'est ce qui me plaisait, tout ce côté rapport à l'humain est très varié en fait, c'est très diversifié tout ce qu'on peut faire. Donc voilà, c'est ça.
Et quand tu dis que c'est très varié, c'est-à-dire que... est-ce que vous pouvez expliquer où est-ce que peut travailler une assistante de service social?
Alors, globalement, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de structures. Ça peut travailler dans le public comme dans le privé, dans l'associatif comme en entreprise. Ça peut travailler sur une échelle plutôt locale, donc par exemple dans un centre communal de l'action sociale ou centre intercommunal de l'action sociale. Ça peut travailler pour le département, ça peut travailler à plus grande échelle voilà, pour la région ou en tant que fonctionnaire d'État. Ça peut toucher au domaine de la santé, au domaine de la protection de l'enfance, au domaine de la pauvreté, de la précarité, de l'accès aux droits. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont possibles. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'au final, on peut toujours changer et trouver quelque chose qui puisse nous plaire, entre guillemets, enfin, qui nous intéresse en tout cas.
Un métier très polyvalent.
C'est ça, c'est un métier où on apprend vraiment constamment. C'est qu'on travaille dans une structure ou dans une autre, ce sera jamais la même chose en fait. C'est un métier qui évolue constamment et c'est ça qui est vraiment très agréable dans ce métier, très formateur.
Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être du fonctionnement de la formation ? Comment on se forme pour devenir assistant de service social ? Sur quelle durée et après quel diplôme ?
Alors, après quel diplôme ? Après le bac, du coup, il faut le bac. Et on se forme sur 3 ans. Et depuis l'année dernière, la formation est considérée comme une licence. Enfin, à le grade licence.
Un grade licence.
À le grade licence. Et donc, c'est une formation sur 3 ans. Une formation professionnalisante où il y a beaucoup de stages en deuxième et troisième année. En tout, en deuxième année, il y a 770 heures et pareil en troisième année.
Ce qui fait 6 à 7 mois de stage. En gros.
C'est ça, c'est 6 à 7 mois de stage. Et en première année, c'est beaucoup plus de la théorie, mais avec quand même 8 semaines de stage qui nous permettent un peu de confirmer notre choix.
Et de découvrir un petit peu, de découvrir déjà le milieu professionnel.
Exactement.
Découvrir un peu comment ça peut fonctionner en institution, voilà, toutes ces choses-là, quoi. Et alors, il faut aussi savoir que voilà, l'assistant de service social travaille, comme on peut le penser, travaille dans une relation duelle, c'est-à-dire en face des personnes, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intervention sociale individuelle. Mais il y a aussi, depuis, c'est une idée assez émergente, l'intervention sociale collective. Donc là, on va travailler avec des groupes de personnes. On va travailler sur, sur l'intelligence collective, essayer de déceler des problématiques et de les travailler, mais différemment. Et c'est aussi très intéressant parce qu'on est obligé aujourd'hui, dans la formation, de mettre en place une intervention sociale collective. Et donc ça, c'est aussi très intéressant.
Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous aimez dans votre formation et ce que vous aimez tout simplement dans votre futur métier puisque vous êtes en troisième année ?
Moi, c'est y a un truc, je m'en suis rendu compte là récemment. Bon, je suis allé chez une personne, je devais la rencontrer, voilà. Et c'était une personne qui partageait pas du tout les mêmes idées que moi, sur plein de points de vue. On partageait pas du tout les mêmes idées. Et au final, on a pu discuter. Et en fait, je pense que j'ai accepté son discours de même manière que j'accepterais le discours de n'importe qui. Et je pense que ça, c'est dû à la formation parce que ça nous offre une ouverture d'esprit. Moi en tout cas ça m'a fait beaucoup grandir par rapport à ça et ça m'a offert une grande ouverture d'esprit par rapport à des discours que je trouvais parfois peut-être trop entre guillemets extrêmes ça peut être n'importe
qui n'était pas dans le cadre de tes représentations
c'est
peut-être.
Ça exactement tout à fait et donc je trouve que cette ouverture d'esprit elle est hyper importante et toute la tout le long de la formation on nous l'apporte. Et je pense que c'est vraiment moi ce qui me plaît, de pouvoir accepter un peu beaucoup, enfin de pouvoir accepter beaucoup de choses en tout cas. Voilà.
Et toi, Adèle ?
Eh ben un peu pareil. Le fait vraiment de cette relation qu'on peut créer avec une personne et aller dans le même sens. Et c'est on accompagne cette personne elle est actrice en fait de son accompagnement. On fait pas pour elle, on fait avec elle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. La personne, elle subit pas son accompagnement, en fait. On entend ses demandes, on en prend compte. C'est quelque chose qui est très important, je trouve.
Alors, ça peut être différent dans le cadre d'accompagnements qui sont plutôt, par exemple, imposés par le juge des enfants, je pense, sur le secteur de la protection de l'enfance, ou encore sur les mesures de protection des majeurs. Où là, c'est des mesures plus contraintes auprès des personnes. Mais ce que tu dis, Adèle, c'est vrai, parce que même dans ces mesures contraintes, on recherche l'adhésion de la personne in fine, et on fait en sorte que petit à petit elle puisse comprendre le sens de la mesure et devenir actrice de son projet d'insertion ou de son projet de vie. Et c'est vraiment le but ultime de l'assistante de service social, c'est que la personne puisse décider par elle-même ses choix et trouver les solutions pour qu'elle elle exerce ses droits.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un peu de votre stage de cette année, ou est-ce que toi, tu es en stage, Antoine ?
Oui. Moi, donc, du coup, je suis en stage en ITEP, en Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique, auprès de jeunes présentant des troubles de la conduite et du comportement. Donc, c'est des troubles qui vont affecter les jeunes dans leurs apprentissages, dans leurs relations sociales, dans leurs relations aux autres, tout simplement, et qui, du coup, vont constituer un véritable handicap. L'idée est d'avoir un travail médical, éducatif et pédagogique autour de ces troubles-là pour trouver une réponse et une solution à la problématique que présentent ces jeunes. Et en tant qu'assistant de service social, on est plutôt amené à travailler avec les familles de ces jeunes, donc, ou avec les jeunes quand ils sont majeurs. On travaille avec les familles dans le cadre des projets personnalisés d'accompagnement, où là on va définir l'accompagnement des jeunes. En gros, c'est la feuille de route, c'est ce qui va nous permettre de définir comment on va travailler avec le jeune. Et là, on récolte les demandes des familles, leurs paroles, on leur donne une vraie place d'acteur dans ce projet. Et ensuite, c'est eux qui ont le dernier mot, en tout cas sur ce PPA, lorsque le jeune est mineur. Et lorsque le jeune est majeur, on travaille directement avec le jeune dans le cadre de ce PPA. Et oui.
Alors oui, je vais t'interrompre parce que ça y est, on commence à jargonner.
Oui,
PPA, je pense que les personnes qui écoutent ne savent pas forcément ce que ça veut dire. Donc est-ce que tu peux l'expliquer ?
Le projet, donc c'est ce que je disais, c'est le projet personnalisé d'accompagnement. Donc voilà, c'est la réunion où tous les professionnels vont se réunir pour définir le projet du jeune et comment on va arriver à définir les différents objectifs selon trois critères: la santé, l'autonomie et la participation sociale. On va à chaque fois mettre des objectifs et mettre des moyens opérationnels pour atteindre ces objectifs. Et voilà, on va faire ça en fonction des demandes du jeune, en fonction des demandes des familles, et essayer de donner une place, en tout cas prépondérante, aux jeunes et aux familles.
Merci. Et toi, Adèle, donc, quel est ton lieu de stage ?
Alors moi, je suis en entreprise, donc je suis au service social d'une entreprise.
Très différent, oui.
Oui, du coup, je suis à La Poste. donc je suis au service social de La Poste, et on va du coup accompagner les agents, donc c'est les salariés et fonctionnaires de La Poste, dans leur vie professionnelle, donc que ce soit sur des situations, des mesures disciplinaires, le retour à l'emploi aussi lors d'arrêt maladie, congé longue maladie, mais aussi dans leur vie personnelle, donc que ce soit leurs problématiques dans leur vie personnelle, donc que ce soit financier, familial, la santé, toutes les problématiques qui peuvent.
D'accord, merci. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce stage ? Pourquoi avoir choisi... est-ce que déjà vous avez choisi ce lieu de stage ?
Oui.
est-ce que vous l'avez trouvé tout seul ou est-ce que l'école vous a
accompagné ? Oui. Non, on l'a trouvé tout seul.
Effectivement, on l'a trouvé tout seul, même si l'école quand même nous accompagne pour trouver des stages.
Oui, bien sûr. C'est pas ce qu'on dit.
l'école, d'ailleurs, nous accompagne fortement à trouver des stages. Mais cette année, on l'a trouvé tout seul.
Ouais. Mais l'année dernière, par exemple, j'ai été très bien accompagné pour mon stage. Je suis parti à l'heure, tout allait bien.
Eh bien, tout pareil.
Et est-ce que vous êtes rémunéré pour ce stage ? Comment ça se passe ?
Alors ouais, pour les stages, vu que ce sont des stages longs de plus de 2 mois, c'est des stages qui sont gratifiés. Donc on est obligé d'être rémunéré, mais c'est une rémunération de stage. Quoi. C'est une gratification d'ailleurs, c'est pas une rémunération.
Ça se compte à combien ?
Ça se compte à 3,90€ de l'heure.
Et à la fin du mois, à peu près.
À la fin du mois, ça se compte à 400 balles.
un peu plus. Un peu plus. Ça va aux alentours de 500 si on fait un mois vraiment complet.
Ouais. Oui, si on fait un mois.
Le mois de février, il va pas être terrible.
Non, le mois de février, il va pas être terrible. Mais
Ouais, c'est pas grave, on a des soutiens après. Enfin, voilà, il faut aussi pouvoir.
Bah, c'est ouvert aux boursiers, évidemment.
C'est... Ça, bien sûr.
Bien sûr, c'est ouvert aux boursiers.
On peut avoir la bourse, on peut avoir la rémunération de fin de formation de Pôle emploi. Et puis voilà, moi je sais que je suis soutenu par mes proches. Mais après, il y a des aides et des dispositifs qui sont mis en place pour les jeunes, pour les étudiants, pour qu'ils puissent accéder à cette formation et pouvoir, bah, pouvoir, pouvoir vivre, tout simplement.
On peut passer peut-être un peu la parole à M. Yannick Châtel, qui nous a rejoint, directeur du Pôle social, et qui va peut-être nous expliquer les différentes formes de... différentes façons d'être en formation sur la filière assistante de service social, par exemple.
Oui, bonjour. Pour rentrer en formation, c'est bien ça ?
Pour rentrer, pour financer.
Donc effectivement, c'est une formation qui bénéficie du soutien financier de la région centre, en fait. C'est ce qu'on appelle la formation initiale. On peut rentrer donc après le bac ou après avoir fait quelques années de fac via Parcoursup. On a 60 places financées tous les ans par la région. C'est-à-dire que si on fait partie des 60 premiers sur la liste d'admission, voilà, on peut rentrer. Il y a toujours un petit reste à charge quand même qu'il faut prendre en compte. Hein. C'est-à-dire qu'une grosse partie est payée par la région, mais il y a toujours ce qu'on appelle une contribution forfaitaire qui doit s'élever à 400, 500 euros, même plus, 700 je crois.
700,
c'est 734.
Voilà. 734 euros.
Cette année. Quelle précision,
On a eu les fiches avant.
On a eu les fiches avant. On présente la formation.
Oui, j'ai préparé les fiches, mais je ne les ai pas retenues. Et voilà, avec des droits d'inscription aussi, tous les ans. Et comme ça a été dit tout à l'heure, comme c'est une formation avec un grade licence, il y a aussi la contribution étudiante, la CVEC, à payer de 92 euros. Donc voilà, c'est quand même des petits frais qu'il faut anticiper, effectivement, tous les ans. Ça, c'est donc ce qu'on appelle la formation initiale. On peut aussi rentrer dans ce qu'on peut appeler la formation continue, c'est-à-dire que je suis salarié, je veux me reconvertir, il existe des dispositifs tels que Transition Pro ou alors sur le plan de formation de son employeur. Et là aussi, on peut rentrer en formation via ce biais. Ça coûte un peu moins cher, vu que c'est l'employeur ou un OPCO, ce qu'on pourrait appeler un OPCO, qui prend charge. Derrière, on a son salaire maintenu, notamment dans le cas de Transition Pro. Et voilà. On peut aussi, on constate là depuis quelques années qu'il y a une pénurie de travailleurs sociaux. Voilà, on a des appels de plusieurs structures nous disant où passent les étudiants au bout des 3 ans. Donc là, dernièrement, c'est même Paris qui recrute une centaine d'assistants sociaux. Pour pallier à ça, certaines structures commencent à proposer des apprentissages dès la deuxième année. C'est-à-dire que l'idée, c'est effectivement de garantir aussi un revenu, pouvoir se fixer sur un lieu pendant, voilà, pendant 2 ans pour, en espérant voilà, garder ses étudiants.
Mmh. Oui, parce que ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que la formation, elle prépare un diplôme d'État. Mmh. Et qui diplôme d'État qui ne spécialise pas les étudiants en fait auprès d'un public, auprès d'un établissement. C'est-à-dire que c'est un diplôme d'État généraliste. Et après, alors parfois les parcours de stage permettent à une certaine spécialisation auprès d'un public ou d'une problématique. Et après, les étudiants peuvent aller travailler sur différents secteurs, etc. Alors c'est sûr que la voie de l'apprentissage, elle aide à cette spécialisation, bien évidemment. Mais
Tu parles de spécialisation. Moi, je pense au mémoire, qui aussi nous permet, donc le mémoire de pratique professionnelle qu'on a à rendre en fin de troisième année, qui nous permet aussi de pas de devenir expert sur un sujet, mais en tout cas de se spécialiser et d'approfondir nos connaissances et d'approfondir tout simplement nos connaissances par rapport à un public, par rapport à une problématique donnée.
Ouais, tout à fait.
Mais c'est une problématique. Pour ce type de formation, alors pas que l'assistant de services sociaux, mais pour tout dans le champ du travail social, c'est que souvent on a une représentation du métier. C'est-à-dire qu'effectivement on voit le métier soit derrière un bureau ou soit à travers un film, des fois un peu caricatural.
Ou un reportage télé.
Ou un reportage télé. voilà, sur certaines chaînes. Et en fait, effectivement. À ma place, ce que je vois, c'est effectivement ce qui fait vouloir rentrer en formation. Effectivement, c'est la relation à la personne. C'est vouloir peut-être des fois réparer des injustices ou voilà, ou une dose d'empathie. Et quand on rentre dans le métier, en fait, ça devient nettement plus large. On s'aperçoit que ça nécessite une énorme technicité, c'est-à-dire qu'il y a plein de dispositifs à maîtriser. Il y a plein de structures, vous avez commencé à les énoncer, mais ça va de l'association, ça va au public. On a des associations culturelles maintenant qui embauchent aussi des assistantes sociales. Et donc, pour mettre ça sur une plaquette, pour rendre le métier lisible, c'est pas possible en fait. Tant que voilà, on n'arrive pas à montrer la diversité de ce métier. Et derrière, donc j'ai parlé de la technicité, mais c'est aussi une capacité. On est dans un monde qui n'est pas simple et ça nécessite personnellement d'être capable de détecter, d'être à l'écoute, d'analyser, pour pouvoir trouver des leviers d'action qui ne sont pas toujours simples, pour pouvoir ne jamais se décourager, pour pouvoir toujours encourager les autres, pour travailler en équipe, pour repérer tous les acteurs. Donc il faut être ancré dans le réel, il faut avoir un peu la tête dans les nuages pour imaginer des solutions, pour trouver des solutions collectives, pour faire regagner confiance. C'est d'une telle richesse que voilà, ça ne rentre pas dans une plaquette. Et on souffre un peu de ça, parce qu'on a beau en parler des heures, je pense que voilà,
on ne fera pas le tour.
On ne fera jamais le tour. Et ce n'est pas fini. La dimension collective voilà, permet aussi d'ouvrir le métier dans plein d'autres, dans plein d'autres champs. Mais moi, j'insiste beaucoup, il faut être créatif, en fait. C'est pas un métier où il y a une valise. On sort pas avec une valise du bon travailleur social. Ça veut dire que le métier est tout le temps en évolution. Donc on n'apprend pas un métier. On donne quelques pistes qui vont permettre d'inventer le métier de demain, en fonction des difficultés, en fonction des dispositifs, en fonction de sa personnalité, de sa capacité à être à l'écoute. Et voilà, c'est ça qui fait aussi la beauté du métier.
Je te rejoins complètement, Yannick.
Il le présente bien.
C'est pour ça que je suis d'accord.
Les garçons, quelque chose à ajouter à ce que Yannick vient de dire?
Je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Yannick.
Je suis absolument d'accord. Ouais, aussi.
On réinvente le métier constamment et c'est là-dessus où notre formation essaye de nous donner un peu des billes pour que ça marche, mais on ne sera jamais un assistant social complet. On doit s'arrêter là. Non, c'est un métier qui est en constante évolution.
Il y a une phrase qu'on nous répète assez souvent, c'est que il y a autant d'assistants de services sociaux, enfin il y a autant de professionnels qu'il y a de personnes dans la formation ou dans le métier, quoi. Parce que chacun a sa manière aussi de faire, sa manière de pratiquer. Et c'est aussi en ça que les stages c'est intéressant, c'est qu'on peut se nourrir, d'une certaine méthodologie, d'une certaine manière de faire, d'une manière de voir les choses et s'ouvrir un petit peu aussi à tout ça. Et donc ouais.
Ouais, puisque ce que je trouve ça intéressant aussi, c'est de se dire qu'on est vraiment, enfin c'est un métier qui est ancré dans le réel. Moi souvent je dis aux étudiants, si vous regardez le journal de 20h, c'est tous les thèmes de votre vie professionnelle y sont, quoi. C'est-à-dire qu'on est au cœur de la société du quotidien, on est au cœur de la vie quotidienne des personnes et on peut intervenir sur différents plans. Ça demande aussi une curiosité intellectuelle, hein. C'est pour ça qu'en première année il y a pas mal de théories qui sont rapportées, hein, pour essayer d'avoir une grille de lecture sur le monde qui entoure les personnes et les problématiques. Et ouais, c'est quand même un métier où on fait jamais la même journée. Voilà.
Si je peux rajouter, c'est moi des fois, alors avec mon grand âge maintenant, je suis assez impressionné. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui arrivent à 18, 19, 20 ans, qui vont commencer un stage et être confrontées tout de suite, voir, vivre, sentir, toucher un peu dans leur chair par des situations qui sont délicates, qui sont choquantes, et être capable de vivre ça, d'être capable de faire un travail sur soi, parce qu'il faut l'accepter, il faut pouvoir aussi vivre avec ça. Je trouve ça assez impressionnant. Voilà, c'est aussi, je pense, une école de la vie, quoi.
Mais Antoine, toi, tu es rentré en formation à 17
ans,
c'était notre mineur.
À 17 ans, exactement.
C'était le surnom que tu avais dans la promo, le mineur.
Tout à fait, le mineur. mais effectivement, pour le coup, je te rejoins aussi totalement là-dessus. C'est que quand on rentre à 17 ans, ça va parce que ma première expérience de stage, bon, il y a eu des choses qui m'ont chamboulé, mais ça allait. Mais c'était surtout les stages de deuxième et de troisième année qui sont toujours extrêmement riches et parfois très durs. Mais effectivement, on peut se confronter à des choses qui sont compliquées. Il faut être, je pense qu'il faut être prêt aussi à entendre les choses et à se remettre en question et être prêt à évoluer, parfois brutalement. Mais voilà, être prêt à changer. Et c'est en ça que la formation aussi est très riche, c'est qu'elle nous permet de changer. Et moi, j'estime avoir changé plutôt positivement. Enfin, je suis content de l'évolution que j'ai prise grâce à la formation. Donc, c'est plutôt positif. Mmh.
Souvent, on dit que les étudiants, entre l'apparence, ne serait-ce que l'apparence physique qu'ils ont en rentrant en formation, et comment ils sont quand ils sortent de formation, nous, on les voit physiquement changer. Et puis, dans leur rapport, c'est assez même troublant de voir que l'impact de la formation sur la perception du monde des étudiants, c'est assez chouette.
Oui, je voulais ajouter que ce soit à 17 ans ou à 30 ans, en fait, dans cette formation, on peut se prendre des grosses claques, entre guillemets, et qu'en fait, des fois, on n'est jamais prêt vraiment à vivre qu'on ait 17 ans ou 30 ans, parce qu'il y a des remises en question qui se font tout au long de la vie, heureusement. Et du coup, ce qu'a pu vivre Antoine qui a 17 ans et moi quand on est 28... Alors peut-être pas de la même manière, mais les remises en question sont là quand même.
Ouais, tout à fait.
Voilà.
Tu peux continuer ton interview, Camille.
Parfait.
Pardon. Je sais plus où j'en suis du coup.
Est-ce que si vous vous projetez dans votre vie professionnelle à 3-4 mois, comment ça se...
Moi, j'aimerais bien savoir, c'est de savoir un peu où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire.
Si t'avais une baguette magique, où est-ce que tu travaillerais?
Si j'avais une baguette magique, je travaillerais en polyvalence de secteur.
Oh là, c'est quoi ce terme-là?
Polyvalence de secteur, encore du jargonnage. Donc ça, c'est plutôt au conseil départemental où en gros, on donne à un professionnel un secteur et il va devoir travailler de manière polyvalente. D'où la polyvalence de secteur, donc sur différentes problématiques. Soit on travaille directement avec la personne sur ses problématiques, soit on va l'orienter par rapport à ses problématiques. En tout cas, on va l'accompagner. Et c'est, selon moi, le poste le plus complet et qui vraiment, le plus, je dirais, classique, entre guillemets, mais qui vraiment va nous montrer, en tout cas, si je devais montrer à quelqu'un ce qu'est un assistant de service social, je montrerais ce poste-là. Parce que c'est le plus complet, le plus classique, et je trouve qu'il est très intéressant malgré tout.
Pour peut-être illustrer le poste, c'est un peu les AS de quartier, les assistants sociaux de quartier.
C'est ça,
exactement. Qui accueillent n'importe qui habite sur un quartier, et qui soit traite la demande, si c'est possible, soit oriente vers les professionnels compétents.
Exact.
Je suis d'accord avec Antoine sur ce qu'il a dit, s'il fallait montrer... Le métier d'assistant social quelqu'un qui voudrait le découvrir, c'est en police de valence de secteur, ce serait sûrement une bonne approche parce que c'est vraiment du touche à tout en fait. On travaille sur tout. Et du coup, moi j'irais l'entreprise en fait parce que c'est un milieu qui me correspond bien et qui m'intéresse énormément. C'est auprès d'un public en fait qui a une certaine autonomie sur plein de choses, qui est toute la dimension de l'insertion par le travail, en fait, elle rentre pas du tout en compte, vu que c'est des personnes qui sont employées, en fait. Mais il y a plein d'autres problématiques qui rentrent en jeu, et il y a un côté législation aussi, droit du travail, qui rentre en jeu, qui est pas forcément abordé dans d'autres institutions qui m'intéressent.
Enfin, la place du droit, là, en effet, le droit du travail en entreprise, c'est clair. Mais il peut y avoir du droit sur la protection juridique des majeurs, type tutelle ou curatelle, sur les juges des enfants. Et la place du droit, elle est importante dans le travail social.
Oui. Mmh. Et justement, dans l'entreprise où je suis, il y a des personnes qui sont sous tutelle et sous curatelle. Et justement, c'est une situation, j'ai eu il y a quelques jours, où justement, c'est comment travailler avec ces personnes. On va à la rencontre du coup du tuteur ou du curateur, ainsi que la personne. Mmh. Et on incarne un peu le juste milieu de l'entreprise. On représente pas vraiment l'entreprise, on représente le service social. Mmh. C'est un peu la zone neutre au sein de l'entreprise. On va dire ça comme ça. C'est un peu la zone neutre parce qu'on est pour personne, on défend pas les intérêts de quelqu'un et pour détruire les intérêts des autres, pas du tout. On est vraiment au juste milieu et on essaye d'être neutre.
Eh bien, merci. Est-ce que je peux poser une dernière question?
Bien sûr.
Ah, alors je vais laisser la parole à Mélissa.
Ah.
Alors la question à 12 euros. Donc il était question d'un diplôme d'État qui peut être utilisable dans tous les lieux où travaillent les assistants de services sociaux. Et je voudrais savoir si c'était un diplôme à validité permanente, entre guillemets. Je m'explique. Si pour une raison ou une autre, quelqu'un arrête son activité professionnelle pour une reprise d'études, une année sabbatique, élever des enfants ou quelque chose comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on peut d'emblée réembaucher sur un poste ou est-ce qu'il faut quand même se reformer ou faire quelque chose?
Eh bien, moi, ma réponse, ce serait que non, il n'y a pas besoin de se reformer parce qu'effectivement, c'est à validité permanente. Par contre, je pense qu'il faut quand même avoir une certaine veille. Bah, on parle de veille sociale. Hein. Faut être en veille par rapport à ce qui se passe, par rapport au dispositif, par rapport au changement. Parce qu'on a, quand on arrive sur le terrain et qu'en fait, on ne connaît rien du public, on ne connaît rien de tout ce qui peut se passer, ça peut être un peu compliqué de se remettre à la page rapidement. Donc il faut quand même garder un œil sur ce qui peut se passer, sur le changement, sur toutes ces choses-là, quoi.
Je ne peux que souscrire, effectivement. Le diplôme d'État qui permet d'exercer se passe une seule fois. Et après, qu'on ait arrêté, exercé autre chose ou juste changé de poste, il y a toujours cette veille. C'est-à-dire que, on l'expliquait, à 3 ans, c'est pas suffisant pour aborder en profondeur toutes les dimensions avec tous les publics. Donc à chaque fois qu'on change de poste, à chaque fois qu'on change de structure, oui, il faut se remettre à niveau et sur les politiques sociales et sur le réseau et sur le territoire et sur le fonctionnement de la structure et se re-questionner sur la place de l'AS dans la structure avec les publics. Donc c'est toujours les mêmes questions qu'on se repose, qu'on ait arrêté d'exercer ou pas.
Se mettre à la page, ça me fait rire, pardon. Oui, et du coup, je pense aussi aux mobilisations des travailleurs sociaux qui ont cours en ce moment. Donc, j'aimerais savoir, vous qui êtes autour de la table, qu'est-ce que ça vous évoque, aux uns, aux unes et aux autres?
Allez.
Un beau combat. parce qu'aujourd'hui, valoriser le travail social, c'est pas facile. On est souvent, comme on en parlait, vous en parliez tout à l'heure, les représentations qu'on peut avoir dans les films, les séries, etc., c'est pas forcément la vraie vie. Et je trouve que se mobiliser pour essayer d'avoir un peu plus de reconnaissance, que ce soit en termes pécuniers, donc en termes de salaire, ou même en termes de reconnaissance tout simplement de l'opinion publique, je trouve que c'est important de se battre un peu pour ça.
Oui, tout à fait. je suis totalement d'accord avec toi. J'ai rien à ajouter, tu as tout dit. C'est parfait.
Et je te remercie, Mélissa, d'aborder le sujet, parce qu'en effet, il y a eu encore une deuxième journée de mobilisation mardi dernier. Qui a réuni des dizaines de milliers de manifestants dans toute la France.
Et aussi, je suis désolé de te couper, c'était aussi pour les professionnels du social en général, donc pas forcément que les assistants sociaux.
Que les assistants sociaux, hein, c'était sur le travail social en général.
Il y avait des éducateurs PEPS.
Ouais. Et c'est important parce qu'en effet, il y a un manque de reconnaissance sur l'apport du travail social dans les questions de vivre ensemble aujourd'hui dans une société. Hein. Si le travail social n'intervenait pas, je pense qu'il y aurait une moins bonne ambiance, qu'on permet quand même à ce que chacun puisse trouver sa place et sans un mode conflictuel, hein, en accompagnant et soutenant les personnes en difficulté qui ont le droit à ce qu'on respecte leur dignité. Donc un manque de reconnaissance en général et puis évidemment salarial, hein, on est les grands oubliés des accords du Ségur. Et pour l'instant, les étudiants font 3 ans d'études, ils ont un niveau licence. Antoine en a parlé, on leur demande un mémoire de pratique professionnelle. Enfin, c'est un vrai investissement pour un niveau de salaire qui finalement n'est pas encore assez suffisant, vu les responsabilités aussi qui sont engagées par les professionnels dans leur travail du quotidien. Et puis aussi, il y avait comme revendication une approche de la gestion des établissements sociaux et médico-sociaux, qui, un petit peu comme l'hôpital l'a vécu ou le vit encore, qui se repose de plus en plus sur une approche quantitative, hein, c'est-à-dire le nombre de suivis. des statistiques qui doivent exister pour faire valoir nos actions, et moins sur l'approche qualitative. Un accompagnement social, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande de la proximité. Et je pense notamment à tous nos collègues qui travaillent en protection de l'enfance, qui parfois manquent de temps pour aller au bout des projets qu'ils établissent avec les personnes. Donc le mouvement en ce moment, il est à la fois sur une question de reconnaissance salariale, mais aussi sur la question de conditions de travail et du sens du travail qu'on place sur le secteur social actuellement dans la société. Et voilà, ici on est aussi attentif, c'est des discussions qu'on a souvent avec les étudiants pour réfléchir, pour se remettre en cause, parce que c'est un peu notre truc, mais aussi pour dire il faut qu'on se fasse valoir mieux que ça, il faut qu'on se fasse connaître, pour que les gens comprennent un petit peu quel est le sens de notre métier.
Eh bien, merci pour ces échanges.
Avec plaisir.
Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Ou
Monsieur Châtel, directeur du Pôle social.
Je pense que c'est à peu près complet.
Ok. Donc voilà pour le plus beau métier du monde. nous allons pouvoir maintenant
ça, c'est un bel ajout.
Passer à la suite pour...
La suite de Red Cross.
De Red Cross.
Pour la prochaine chronique. Merci.
C'est ça.